Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Je vous suggère de lire un texte des Actes. Je vous propose dans Actes chapitre 24. Donc, Actes chapitre 24. Actes chapitre 24, verset 24, nous dit que quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et il envoya chercher Paul. Il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais comme il faisait porter la discussion sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, va-t'en. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Il espérait par ailleurs que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pour cela aussi qu'il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 années s'écoulèrent ainsi, puis Félix eut pour successeur Porcius Festus, voulant accorder une faveur aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Voilà, juste un premier exemple, donc, d'un contact entre Paul ici et des autorités politiques, et donc entre Paul et Félix. Pour introduire mon sujet, donc, chrétien et autorité, l'exemple des Actes des apôtres. J'aimerais faire quelques remarques introductives en disant que, donc, je vais utiliser quelques textes du livre des Actes et j'aimerais confronter au travers de ces textes ce que le texte, donc, des Actes, de la parole de Dieu, nous dit et certaines conceptions du politique, des relations du politique avec le monde religieux, avec les chrétiens, et cela donc pendant le cours de l'histoire de l'Église, de l'histoire du christianisme. J'aimerais dire que, deuxième remarque, je vais prendre les Actes, mais dans leur contexte biblique, et en particulier les spécialistes des Actes, évidemment, ne peuvent pas se fonder seulement sur les Actes des apôtres. Il y a une sorte d'unité narrative, comme on dit, une approche qu'on utilise de manière importante, donc la narratologie, l'approche narrative de l'ensemble de l'œuvre de Luc, que ce soit donc l'Évangile et ou les Actes. Et donc, je citerai parfois quelques textes de l'Évangile de Luc. J'ai dit contexte biblique. Évidemment, un texte que chacun d'entre nous, je pense, a à la pensée en ce qui concerne la relation entre les autorités et les chrétiens est celui de Romains chapitre 13, verset 1 à 7, la soumission aux autorités. Et donc, je ferai quelques allusions à ces textes pour comprendre ce que les Actes nous disent, mais évidemment, sans séparer ce que les Actes nous disent du reste du Nouveau Testament. Je pense que les Actes ont cet avantage de nous permettre d'avoir une approche relativement concrète de cette question. C'est-à-dire que, au-delà du texte de Romains 13 dont je parlais, qui a un aspect didactique, on pourrait dire, je pense que les Actes nous permettent de voir comment les chrétiens ont réagi dans des situations particulières. Et donc, je pense que c'est cet aspect concret qui est également intéressant, qui nous permet donc de donner quelques bases, on pourrait dire, pour comprendre des relations bibliquement justes, pour pouvoir donc établir des relations bibliquement justes, en particulier avec les autorités politiques de notre époque, puisque notre thème de ce centre évangélique correspond donc à ces relations en rapport avec la loi de 1905. Je vous propose comme plan de mon intervention, après ces remarques introductives, de voir le sujet dans son contexte, de poser la question, est-ce que les chrétiens des Actes tels que Luc nous les présente, en quelque sorte courtisent les autorités politiques ou se soumettent à elles. Est-ce que Luc, en écrivant les Actes, avait l'intention de se présenter de manière positive à l'égard d'un lecteur, un officiel romain par exemple? Et puis, je poserai la question un petit peu surprenante peut-être, est-ce que penser du religieux qui domine le politique, est-ce que les Actes nous disent un peu quelque chose là-dessus? Je vous propose donc de voir notre premier point, le sujet dans son contexte, et j'aimerais dire deux mots, tout d'abord, d'un sujet qui intéresse de manière relativement importante, qui est la théologie politique. J'ai mis donc, premièrement, théologie politique, sujet d'actualité. Je vais citer juste un livre, mais c'est un sujet, en fait, qui intéresse de plus en plus de gens. Je cite donc le livre de Théodore Paléologue, édité en 2004, « Sous l'œil du grand inquisiteur, Carl Schmitt et l'héritage de la théologie politique ». Donc on a un développement sur cette question de théologie politique et dans sa présentation du livre, au dos du livre, l'auteur conseille aux politiciens de commencer par étudier la théologie. Je pense que c'est une très bonne chose d'étudier la théologie et donc les politiciens feraient bien de le faire. Théologie politique, une notion relativement problématique, dit-on, une notion, dit Théodore Paléologue, riche et ambiguë, toute la tradition propre à la civilisation européenne se trouve, dit-il, mobilisée par elle, et en particulier les figures du grand inquisiteur et de l'Antichrist. Il dit la théologie politique fait penser à la fois à l'utilisation de la religion par la politique et à la prétention des théologiens à imposer leur ligne de pensée à l'ensemble de la société. Il dit ce sujet oscille entre donc deux types de personnages, le politicien cynique et le théologien fanatique. Dernière citation de Théodore Paléologue. La théologie politique semble être une sorte de condensé qui rassemble les plus obscures et impures pulsions de la volonté de puissance. Au fait, théologie politique, cette expression vient d'où? Eh bien, il semble qu'un de ceux qui l'a utilisé, en tout cas à l'époque moderne, est le célèbre Bakounine, donc fondateur de l'anarchisme, et pour lui, théologie politique, c'était une insulte. Mais j'ai parlé de Carl Schmitt, et donc le livre de Théodore Paléologue parle de Carl Schmitt. Carl Schmitt, donc un éminent professeur allemand, a repris cette expression dans son livre, donc écrit en 1922, pour transformer cette sorte de slogan négatif. Pour Bakounine, c'était le pire de tout. La théologie politique, c'était le pire de tout, l'influence de la religion sur la politique. Et donc, Carl Schmitt a repris cette expression pour en faire un nom relativement respectable, une direction de recherche dans son domaine académique qui était celui du droit. Je dois vous dire que ce Carl Schmitt n'est pas forcément tellement recommandable, tout en étant une sommité intellectuelle, puisqu'il a adhéré au nazisme en particulier. Mais, en tout cas, il a, donné de l'importance à cette expression, théologie politique, et son œuvre n'a cessé de soulever, donc, polémique et controverse. À la fin de sa vie, Carl Schmitt aurait dit que celui qui ne comprend pas, il parle du grand inquisiteur, je vais expliquer un petit peu cela, celui qui ne comprend pas que le grand inquisiteur a entièrement raison contre toute piété exaltée envers Jésus, celui-là n'a pas pigé ce qu'est l'Église. Et donc, Carl Schmitt utilise, et dans ce domaine de théologie politique, on utilise la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski. Et cet auteur russe va en quelque sorte imaginer que Jésus rencontre le grand inquisiteur en Espagne en particulier, donc rencontre ce grand inquisiteur, et le grand inquisiteur va en quelque sorte faire le procès de Jésus lui-même. Et il va lui reprocher beaucoup de choses, et en particulier d'avoir résisté aux tentations du diable, de Matthieu chapitre 4. Et voilà, par exemple, si Jésus n'avait pas repoussé les tentations du diable, alors il y aurait du pain maintenant pour tout le monde. On n'aurait pas à souffrir de la faim. Et donc le grand inquisiteur reproche à Jésus d'avoir résisté au diable dans ce domaine. Il a résisté dans le domaine religieux, sauter le haut du temple, etc. Mais les gens ont besoin de religion, de mystère. Et voilà que Jésus, parce qu'il a été trop exigeant, a trop demandé, alors a privé l'humanité de cette satisfaction, disons, de ce besoin religieux. Et puis, les hommes ont besoin d'unité. Alors voilà, le prince de ce monde aurait pu faire cela. Bref, le Christ n'a pas aimé les hommes en faisant ce qu'il a fait. Il a exigé d'eux beaucoup plus qu'il ne pouvait donner. S'il avait accepté la tentation du diable, alors les hommes auraient mené une existence rassasiée et animale, et ça aurait été vraiment formidable. Donc voilà l'expression, cette légende d'un affrontement entre Jésus et, on pourrait dire, une église trop politisée, une opposition entre la religion évangélique républicaine, dit-on, et une religion théocratique et absolutiste. Bref, le message de Jésus a un caractère subversif. Je n'oublie pas mon sujet, je vais revenir aux actes. Et deuxième petit paragraphe dans mon premier point, quelques précisions, puisque je parle du contexte, quelques précisions sur la situation politique au temps des actes. Pour dire que nous devons être bien sensibles au fait que, au temps des actes, nous sommes dans une époque totalement différente de la nôtre. Et la question politique y est évidemment traitée sous des angles tout à fait différents de la situation actuelle. À cette époque, quelqu'un a pu dire cela, à cette époque, une activité politique responsable et une collaboration des chrétiens avec l'État n'est pas pensable. Les chrétiens ne peuvent choisir que la soumission. Quelques mots, donc, supplémentaires concernant cette situation politique des actes. Pour dire que, petit rappel, donc, on peut envisager que les actes ont été rédigés vers les années 70, et je rappelle que le récit des actes couvre la période de 30 à 65 environ. C'est intéressant de remarquer, pour la question qui nous préoccupe ce matin, de remarquer les prologues de l'évangile de Luc et des actes des apôtres, avec donc cette remarque que Luc fait de s'adresser à Théophile. C'est poser des questions, qui est ce Théophile, personnage réel, fictif, et certains ont parlé d'un officiel romain intéressé par le christianisme, ou peut-être d'un officiel romain à qui on aurait donné certaines informations défavorables sur l'activité des chrétiens. Je pense que le livre des actes s'adresse à un éventail plus large que celui donc des officiels romains, mais en tout cas, le livre des actes nous donne comme destinataire privilégié, quelqu'un qui semble être un officiel, un notable romain. Je vous rappelle l'expression de Luc 1:3, très excellent Festus, qui correspond à, disons, une présentation d'un, d'un notable, comme je le dis. Autre remarque qui sera ma dernière en ce qui concerne la situation politique au temps des Actes, il faut dire que les relations entre le christianisme et que peut-on dire des relations entre le christianisme et l'Empire romain au temps des Actes et au moment où Luc écrit, on peut noter en particulier que l'Empire romain monte en puissance. Donc l'Empire romain est puissant à cette époque et que les chrétiens, le christianisme, étant donné son faible impact, n'est pas encore perçu comme une menace. Mais je vous rappelle qu'à Rome, on a déjà une persécution sous Néron vers les années 64. Dernière information, on pourrait dire, le christianisme bénéficie de son association au judaïsme de l'époque, judaïsme qui avait un statut particulier dans l'Empire romain, et donc le christianisme est à ce moment-là considéré comme une partie du judaïsme qui joue à son avantage, au début en tout cas, après 70, après la révolte, après la guerre juive, ce ne sera plus le cas. J'entre plus spécialement dans le vif de mon sujet avec mon deuxième point, trembler devant le politique ou le courtisé. Les Actes des apôtres nous présentent-ils des chrétiens qui tremblent devant le politique et qui le courtisent? Je pense que les Actes des apôtres, je crois qu'on pourrait d'abord, j'aimerais discuter en rapport avec la proposition d'Hans Conzelmann, position que j'explique en deux mots. Hans Conzelmann, qui est très préoccupé par le retard de la venue, de la seconde venue du Christ, et qui est bien connu pour, en quelque sorte, partager l'histoire de la rédemption en trois étapes, l'histoire d'Israël, la période du Christ et la période de l'Église. Et ce qui m'intéresse un peu plus, encore plus, c'est de dire que, pour Conzelmann, Jésus, dans les écrits de Luc, n'apparaît pas en conflit avec l'ordre politique. Au contraire, et les Actes en particulier développeraient une sorte d'apologétique politique caractérisée, c'est-à-dire que, pour Conzelmann, les Actes des apôtres sont une bonne manière de se faire bien voir de l'Empire romain et d'officiels romains qui liraient les Actes. Et la question que je pose, c'est, est-ce que c'est si vrai que ça? Et je crois que ce n'est pas si vrai que ça. Et que donc, à la réponse, est-ce que les chrétiens tremblent devant le politique ou est-ce qu'ils le courtisent? J'ai envie de dire non. Mais un non que je reprendrai demain pour dire que c'est vrai que les Actes ne méprisent pas la politique, ne le considèrent pas comme quelque chose dans lequel le chrétien n'a rien à rechercher, c'est le monde, j'ai pas à m'occuper de cela. Je crois que les Actes des apôtres ne nous présentent pas cette sorte de séparation qu'on pourrait trouver dans certains milieux, peut-être certains milieux évangéliques. Mais trembler devant le politique ou courtiser, non. Être intéressé par le politique, lui donner une certaine importance, je le dirai demain, oui. Mais trembler devant le politique ou le courtiser, non. Et je veux juste faire quelques remarques en rapport avec cela dans le texte des Actes lui-même. Je vous ai lu tout à l'heure le passage où Félix, donc ce gouverneur romain, nous est présenté et avouer qu'un officiel romain qui lirait ce texte serait peut-être un peu fâché, parce que Félix va chercher Paul pour recevoir de l'argent. C'est pas très glorieux quand même pour un gouverneur romain. Félix laisse Paul en prison,
parce que ça fait plaisir aux Juifs. Où est le sens de la justice? C'est pas une présentation très flatteuse. Et donc je pense que quelqu'un qui, un officiel romain qui aurait lu ce texte, n'aurait pas trouvé cela très agréable à lire. Et puis, petite remarque de critique, de rédaction, comme on dit, vous savez que pour rechercher les tendances théologiques, par exemple, de Luc, alors on peut utiliser, ici je vais citer un texte de l'Évangile en fait, c'est très, très facile avec les textes de l'Évangile, c'est très intéressant de comparer un texte de l'Évangile de Luc avec, par exemple, l'Évangile de Marc. Vous savez qu'on a l'habitude de dire que l'Évangile de Luc, Luc a utilisé différentes sources, Marc en particulier, et la source Q, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est intéressant de comparer donc les textes de l'Évangile de Luc, en particulier avec Marc, pour en tirer des renseignements sur sa théologie. Et si on fait cela, alors il y a un texte très intéressant pour notre sujet, c'est celui de Luc, chapitre 6, verset 15, où il est question des 12 apôtres, parmi lesquels, Luc nous dit, il y a Simon le Zélote. Simon le Zélote. Et Marc emploie un mot plus vague, qui est Simon le Cananite, dans Marc, chapitre 3, verset 18. Et je pense que le fait d'avoir un révolutionnaire, quelqu'un qui s'oppose à l'autorité des Romains, c'est pas quelque chose qui devait être tellement agréable pour quelqu'un, pour un lecteur romain. C'est pour ça que je peux dire en fait que le fait que l'un des disciples de Jésus provenant d'un milieu en opposition caractérisé à l'autorité impériale risquait de ne pas vraiment faire plaisir à des lecteurs romains. Je vais terminer le développement de ce deuxième point en disant que de nombreux textes des Actes montrent des chrétiens hardis qui ne tremblent ni ne courtisent, qui ne tremblent pas et ne courtisent pas les autorités juives ou romaines. Face à la menace qui pèse sur eux en rapport avec Hérode et Pilate, je cite Actes 4, 27 là, alors les chrétiens prient intensément, sont visités par le Saint-Esprit, c'est ce que les exégètes appellent la petite Pentecôte, en Actes chapitre 4, verset 31, et ils disent la parole de Dieu avec assurance. Ils ne tremblent pas et ne courtisent pas les autorités juives et romaines, ils sont prêts à les affronter pour prêcher l'Évangile, et même des simples chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit pour cela. Paul non plus ne se laisse pas impressionner, par exemple dans le texte de Actes 25-23, il nous est dit que le roi Agrippa est venu en grande pompe. Attendez, je parle pas des chaussures, là. Hein. Comprenez-moi bien. Hein. Il est venu en grande pompe, il a impressionné, etc. Il est impressionnant. Et pourtant, vous savez que Paul le presse. C'est le roi, mais il le presse. Et à la fin, Agrippa lui dit, mais est-ce que tu veux me persuader de devenir chrétien? Et je cite Actes chapitre 26, verset 28. Paul ne courtise pas les autorités juives ou les autorités romaines. Et puis, à Philippe, c'est très intéressant pour notre relation avec les autorités. Ce texte est très intéressant. À Philippe, Paul aurait pu dire, quand on l'a libéré, c'est bien, moi je suis un petit chrétien, on m'a mis en prison, mais on m'a libéré, merci Seigneur, c'est formidable. Mais Paul ne fait pas cela, il dit maintenant, ah, ils n'ont pas su que j'étais un citoyen romain, ils n'ont pas pris cela en compte, il faut qu'ils viennent me faire des excuses. Je trouve cela assez fort quand même, et je vois un Paul ici qui, je le répète, n'a ne tremble pas, ne courtise pas les autorités romaines, les autorités juives, et qui ont donc cette capacité d'affronter les autorités politiques, spécialement quand celles-ci ne font pas ce qu'elles devraient faire. Mon troisième et dernier point, dominer le politique, point d'interrogation. Je pense que poser cette question en rapport avec les actes peut, à première vue, sembler tout à fait malvenu, étant donné que ce n'est pas du tout la tentation, évidemment, étant donné le contexte, ce n'est pas du tout la tentation à l'époque des actes, bien sûr. Autant donc qu'on a une église numériquement insignifiante. Donc, je voudrais m'expliquer en rapport avec ça, mais d'abord faire un petit détour pour dire que dans l'histoire du christianisme, cette tentation a été bien présente et cette tentation a joué un rôle et un rôle tout à fait néfaste. Juste une petite illustration avec le Moyen-Âge, avec ce pape, par exemple, insistant énormément sur la théocratie. Je parle d'Innocent III, pape de 1198 à 1216, où on a dit parfois qu'avec lui, la papauté atteint le sommet de la puissance. Le pape apparaît comme l'arbitre de l'Europe. Il prétend posséder la plénitude du pouvoir spirituel. Dieu lui aurait confié beaucoup de possessions temporelles avec une foule de richesses. Il dit que le pouvoir impérial des empereurs, donc allemands en particulier, c'est comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil. Et donc ce soleil, c'est le pouvoir, l'autorité pontificale qui donne la splendeur et la dignité au pouvoir royal. Voilà que le pape est vicaire du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et on en arrive à une sorte de prééminence du spirituel sur le temporel. Ça va très loin, vous le savez, au Moyen-Âge. On va jusqu'à ce temps où l'empereur allemand est obligé à Canossa de venir se prosterner devant le pape, ou pour rester français, le pape met la France sous interdit en 1198. Les églises sont fermées, il n'y a plus de messe le dimanche, une simple prédication devant l'église, la communion n'est pas donnée aux mourants, il n'y a pas d'extrême onction dans une sépulture entre guillemets en terre bénie. Pour les gens de l'époque, c'est une désolation, et une telle désolation que le roi Philippe Auguste va capituler et reprendre son épouse légitime, et c'était la raison pour laquelle le pape avait mis la France sous interdit. Quel rapport avec les actes, allez-vous peut-être me dire? Eh bien, je crois que les actes, quelques indices en tout cas dans les actes, nous montrent ce que le Nouveau Testament nous dit de manière plus explicite, c'est que on a deux domaines séparés qui sont celui de la politique et de la religion. Mais je voudrais juste prendre un exemple que je trouve dans les actes de la sagesse, que j'intitulerais peut-être la sagesse de Galion, dans Actes chapitre 18, verset 12 à 17, Actes 18, verset 12 à 17, où peut-être je vais vous lire ce texte, parce que je crois que Galion, cet homme politique bien connu, cet homme politique qui en 51-53, c'est une date référence pour le livre des Actes, parce qu'on a trouvé des informations archéologiques concernant la présence de Galion à Corinthe à l'époque. Il nous est dit: alors que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se dressèrent d'un commun accord entre Paul, contre Paul, et le conduisirent devant le tribunal en disant « Cet individu persuade les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait reprendre la parole lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'un forfait ou d'un délit grave, quel qu'il soit, je vous écouterai patiemment aux Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur votre propre loi, cela vous regarde. Moi, j'insiste sur ces paroles-là, moi, je ne souhaite pas en être juge. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal sans que Gallion s'en soucie le moins du monde. Je ne souhaite pas en être juge. Et donc c'est comme si Luc nous disait, nous donnait une sorte d'indice que cet homme relativement respectable qui était Gallion ne souhaite pas intervenir dans des questions religieuses. Donc politique et religion constituent des domaines séparés. Je pense que la citation de Luc, chapitre 20, verset 25, est beaucoup plus claire. Je veux dire la parole de Jésus lui-même, quand il est dit que de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, de rendre à César ce qui appartient à César. Là, l'enseignement de séparation entre deux domaines de politique et de religion, dans Luc 20, 25, est tout à fait précise et tout à fait claire. Et les chrétiens de tous les temps auraient dû s'inspirer de ce passage et ne pas arriver à cette sorte de mélange entre le politique et le religieux. On parle de césaropapisme à partir des années 312, la conversion, 313, conversion de Constantin, etc. Vous savez ce qui a pu se passer à l'époque. S'il n'y a pas de séparation entre deux domaines, et je reviens à une notion utilisée par Carl Schmitt et la théologie politique ici un peu comme un outil de réflexion, Carl Schmitt est très intéressé par le concept de Paul, concept paulinien du catéchon. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Sa mort, je ne sais pas. Non, ça ne mord pas. C'est le retenant de 2 Thessaloniciens 2:6. L'antichrist ne revient pas, dit Paul, ne vient pas, parce que quelque chose le retient. Les exégètes se sont beaucoup fatigués sur cette question, qui est ce retenant. Je reviens à Carl Schmitt pour dire que Carl Schmitt dit que les chrétiens, ça me semble une idée intéressante, je vous la propose pour votre méditation, les chrétiens doivent avoir un rôle, Carl Schmitt parle d'un rôle catéchontique, excusez-moi, catéchon, ça fait catéchontique, je ne sais pas pourquoi il met un H d'ailleurs, je ne vois pas en rapport avec le grec pourquoi il faut mettre un H avant le... Ah non, mais ça reste, non, ça va. C'est un qui, excusez-moi, je croyais qu'il y avait un H devant le T. Non, c'est bon, ça va. La grammaire grecque est sauve. Donc, il propose un rôle qu'il appelle catéchontique. Il dit ce serait une dimension consubstantielle au fait d'être chrétien, puisqu'en obéissant à Dieu, l'homme s'oppose au progrès du mystère d'iniquité qui est à l'œuvre dans le monde. Et donc, Théodore Paléologue, qui parle de ça, reproche à Carl Schmitt d'avoir une approche trop politique de ce fameux catéchon, et Théodore Paléologue dit qu'il faudrait plutôt insister sur une sorte de catéchon spirituel, la présence de l'Église, par exemple, dans le monde, qui a une influence bénéfique, qui fait que l'Antichrist ne peut pas venir, parce qu'elle a une influence positive, une influence donc, un rôle, comme je vous disais, catéchontique. C'est assez intéressant, je vous propose de réfléchir peut-être sur ce sujet. Bref, ma conclusion pour mon troisième point et mes conclusions générales ensuite, pour dire que la question de la théocratie, évidemment, ne se pose pas du tout au temps des Actes. Cependant, l'enseignement lucanien établit une nette séparation entre deux domaines qui ne sont pas appelés à dominer l'un sur l'autre, et en particulier à ne pas avoir d'influence, comme c'était le cas, je l'ai dit, dans le cas du césaropapisme, où les notions de théocratie que j'ai présentées avec ce pape Innocent III, ce pape du Moyen-Âge. J'arrive à mes conclusions pour dire que la théologie politique est donc un sujet d'actualité. Depuis le 11 septembre, les politiciens feraient bien d'étudier la théologie, et Carl Schmitt reproche à Jésus, dans ce domaine donc des théologies politiques, son approche trop spirituelle et donc subversive. Et il reproche que cette approche trop spirituelle n'est pas inféodée aux politiques. Il lui préfère le grand, semble-t-il en tout cas, le grand inquisiteur. Vous comprenez que, en ce qui nous concerne, théologien ou penseur ou chrétien évangélique, alors notre préférence ira bien sûr d'un autre côté, mais l'opposition apparaît tout à fait sensible dans cette discussion entre l'approche très spirituelle de Jésus et l'approche qu'on pourrait dire politique. Certainement, Carl Schmitt et les autres estiment que le message de Jésus manque de, disons, de, je sais pas, de pertinence et d'efficacité politique, mais c'est vrai que les méthodes de Jésus ne sont pas les méthodes, on dirait, du monde. Et Jésus explique bien que les grands de ce monde dominent, dominent sur ceux qui leur sont échus en partage, mais que ce n'est pas, il n'en sera pas de même parmi vous. Jésus établit un type de relation tout à fait différent, et la discussion avec la théologie politique et Carl Schmitt, je crois, indique cela, et je pense que c'est tout à fait intéressant. Conclusion en ce qui concerne mon deuxième point, au temps de l'Empire romain, d'un Empire romain qui monte en puissance, les chrétiens du livre des Actes ne tremblent pas devant le politique et ne le courtisent pas. Hans Conzelmann a certainement lu de manière très partielle les Actes des Apôtres en particulier. On ne peut pas parler d'apologétique politique dans les Actes des Apôtres. Et je crois que Luc présente les autorités juives et romaines avec leurs qualités et parfois leurs défauts. Et que, par exemple, Félix est montré tel qu'il l'était, c'est-à-dire en partie injuste et en partie partial. Et l'évangile de Luc n'a pas peur de nous présenter un zélote, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait partie d'un groupe tout à fait ennemi, des ennemis jurés des Romains, et pourtant voilà que dans le groupe des disciples de Jésus, il y a l'un de ces zélotes. Les chrétiens ne courtisent ni Pilate, ni Agrippa, ni les magistrats de Philippe. Je vous rappelle ce que l'attitude que Paul a à leur égard. Il faut qu'ils viennent faire leurs excuses. Dernier point, dernière conclusion. Pour les chrétiens des Actes, le domaine de la politique et celui de la foi chrétienne sont des domaines séparés. Il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si les chrétiens des siècles ultérieurs avaient bien entendu ce message, ils se seraient éloignés donc du césaropapisme ou des prétentions théocratiques de certains papes du Moyen-Âge. Telle est ma conclusion. Je vous remercie de votre attention.